avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le fond et la forme. Jean-Luc Mélenchon va devoir s'expliquer aujourd'hui sur le fond dans le cadre de deux enquêtes préliminaires sur des emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen et sur ses comptes de campagne pour la dernière présidentielle. Motif de perquisition mardi et de colère de Jean-Luc Mélenchon. Une forme d'expression dénoncée par des syndicats de police et de magistrats. Les députés de la France insoumise font eux bloc derrière Jean-Luc Mélenchon.
Pour limiter la circulation automobile et surtout lutter contre la pollution, le gouvernement serait prêt à instaurer des péages à l'entrée des villes de plus de 100 000 habitants, aide également à la conversion pour pallier en partie la hausse des carburants dont le diesel.
À la une encore, l'impasse à Bruxelles sur le Brexit. Aucune avancée hier entre Londres et les 27. Pourquoi fait-on du surplace alors que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne en mars prochain? Analyse dans ce journal. Le Washington Post publie ce qui pourrait bien être la dernière contribution du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis deux semaines. Donald Trump a dû préciser hier qu'il ne cherchait pas à couvrir ses alliés saoudiens qui, selon la Turquie, sont responsables de la mort de Khashoggi.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, quel avenir pour Force ouvrière après la démission de Pascal Pavageau? On posera la question au sociologue Karel Yon.
Jean-Luc Mélenchon est convoqué à 11h ce matin à l'Office de lutte contre la corruption pour répondre aux soupçons sur des emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen et sur ses comptes de campagne pour la présidentielle de l'an dernier. Deux enquêtes préliminaires sont ouvertes et c'est pour cela que des perquisitions ont été menées avant-hier, notamment au siège de la France Insoumise. Perquisition violemment contestée par Jean-Luc Mélenchon qui a filmé et diffusé la scène en direct sur les réseaux sociaux. Une enquête pour menaces et violences sur des policiers et des magistrats a été ouverte hier par le parquet de Paris, Sophie Parmentier.
Quand Jean-Luc Mélenchon crie « La République, c'est moi » face à un gendarme impassible qui garde la porte de la France insoumise, quand Jean-Luc Mélenchon enfonce la porte avec ses soutiens, puis bouscule un procureur contre un mur et hurle encore contre d'autres policiers, il est hors la loi qui est la même pour tous, souligne ce matin l'Union syndicale des magistrats et le syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le SCSI. À sa tête, Jean-Marc Bayol soutiendra les enquêteurs malmenés pendant cette perquisition, qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme, ce qui est forcément regrettable pour l'enquête, tout comme les vidéos tournées, dit-il, consterné.
Ça nous rappelle le genre de perquisition où on vient nous perturber quand on intervient dans des quartiers difficiles, dans des affaires de stupéfiants, par exemple. C'est gravissime. Et on pose la question aussi de l'utilisation de l'image à des fins de propagande. Et nous, on serait assez partisans que toute utilisation d'image lors de l'exécution d'un acte judiciaire puisse être poursuivie. Parce qu'autrement, ça va être la surenchère. Et je crois que demain, n'importe quel citoyen va se sentir autorisé à faire la même chose. Il faut y mettre fin.
En attendant, nous nous servirons de ces vidéos pour prouver les violences exercées par Jean-Luc Mélenchon, prévient ce syndicaliste policier qui assure n'avoir jamais vu de telles rébellions dans une enquête politico-financière.
Jean-Luc Mélenchon lui dénonce une volonté d'intimidation. Il a annoncé que son parti, la France Insoumise, allait porter plainte pour violence policière. Une affaire qui divise l'Assemblée nationale, Antoine Geoffin.
C'est une affaire politique, c'est normal qu'on la politise. Pas d'hésitation pour Éric Coquerel, député La France Insoumise. La perquisition qui a visé son mouvement est venue du sommet de l'État.
Le procureur agit directement sur ordre du ministère, qu'on arrête de nous la faire. Le fait que France Insoumise soit traitée de manière 10 fois pire que n'importe quel parti politique, c'est politique. Je pense que c'est des retours de l'affaire Benalla. Macron, quelque part, nous renvoie un espèce d'effet boomerang, c'est ça qui s'est passé. On ne peut pas agir comme ça, mettre au service comme ça la justice et la politique d'un objectif qui est d'intimider l'opposition. Mais c'est raté parce qu'on n'est pas intimidé.
Aurore Berger est députée LREM des Yvelines et elle ne croit pas un mot de cet argumentaire. Elle fustige la victimisation de la France insoumise.
On a atteint un niveau de paranoïa qui est sidérant. Il y a une volonté d'instrumentalisation qui est dangereuse. Essayer de faire croire que dans notre pays, on aura une police politique. Je veux bien qu'ils prennent en permanence le Venezuela en exemple, mais on n'est pas au Venezuela ici. Il n'y a pas de police politique, il n'y a pas de police d'État, il y a juste une justice. La justice, elle doit passer et elle doit être la même pour tous. Un justiciable n'aurait jamais pu se comporter comme s'est comporté Jean-Luc Mélenchon.
Philippe Gosselin, député LR de la Manche, ne dit pas le contraire, mais quand le syndicat policier Alliance demande au ministre de l'Intérieur de porter plainte, lui préfère jouer l'apaisement.
Je conseillerais plutôt que de s'envoyer des plaintes à la figure, de reprendre ça calmement, sereinement. Encore faut-il que les protagonistes en aient envie, c'est évident, mais plainte, oui, contre quoi? Obstruction, je ne suis pas sûr que tout cela puisse aboutir, pas plus du reste que les menaces ou tergiversations ou agitations de Mélenchon.
Et ce dernier veut lui-même même calmer le jeu. Je propose que le ton baisse, mais n'en rajoutez pas, a-t-il lancé aux médias à la sortie de l'Assemblée.
Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, qui s'est par ailleurs moqué hier d'une journaliste qui lui posait une question en imitant son accent du Sud. Est-ce que quelqu'un peut me poser une question en français et à peu près compréhensible parce que votre niveau me dépasse, a-t-il déclaré. Le syndicat national des journalistes de France Télévisions condamne, je cite, fermement les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui hélas n'en est pas à son coup d'essai. L'exécutif, de nouveau sous la pression des retraités et d'une partie de sa majorité, les 9 syndicats et associations de retraités appellent à manifester aujourd'hui contre le coup de rabot l'an prochain sur les pensions après la hausse de la CSG cette année. Des choix budgétaires que contestent également certains députés de la majorité. Selon le Secours populaire, ils sont 1 million de retraités à vivre avec moins de 1000 euros par mois. Bernadette, 70 ans, est à peine au-dessus de ce seuil, mais elle doit se priver.
Moi, j'ai 600 euros, moi. Je suis avec mon mari, bien sûr. Hein. Mon mari, il a 1200 euros. On a 500 euros de frais, d'impôts, de tout ce qu'il y a à payer, de la lumière, de l'eau, et tous les mois. Alors, vous voyez ce qu'il nous reste. On va nulle part, on sort pas, parce que l'essence, ben, c'est bien ce que c'est, hein, le prix du gasoil. Parce que nous, on est comme tout le monde, on paye tout. On est toujours en train de compter. Faut qu'on se prive, que le gouvernement arrête de nous piquer des sous. Parce que moi, j'estime que quand on est en retraite, on devrait plus payer ce qu'on paye.
Bernadette, retraitée de 70 ans, interrogée par Pierre Coquelin de France Bleu Cotentin. On l'entendait, la hausse du prix des carburants, dont le diesel est une nouvelle épine dans le pied du gouvernement. La prime à la conversion, la prime à la casse, pourrait augmenter pour compenser ces augmentations. Geste environnemental également, le gouvernement serait prêt à instaurer des péages à l'entrée des villes de plus de 100 000 habitants, et ce pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution. On y revient dans le journal de 7h30. Par ailleurs, la ministre des Transports et Elisabeth Borne confirme ce matin l'abandon du projet d'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne. C'est à lire dans un entretien au Progrès. La ministre veut privilégier des solutions alternatives routières et ferroviaires.
7h07 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Catherine Dutulle. Les 28 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour débattre de questions migratoires, de sécurité et de l'avenir de la zone euro après avoir échoué hier à faire avancer les négociations sur le Brexit.
Et pourtant, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévue dans moins de 6 mois maintenant, le 29 mars prochain. Alors que les négociations achoppent toujours sur la question de la frontière irlandaise, les 27 ont mis la pression ces derniers jours sur la première ministre britannique Theresa May pour obtenir de nouvelles propositions. Peine perdue. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Londres et les 27 n'ont donc pas réussi hier à faire avancer les négociations d'un pouce.
Non, même si le face-à-face s'est finalement déroulé dans une ambiance plutôt détendue, mais c'est vrai, il est très vite apparu que Theresa May arrivait les mains vides, paralysée par les Brexiteurs durs de sa majorité qui refusent la moindre concession à Bruxelles sous peine de lui retirer leur soutien. Il lui est donc désormais impossible de faire la moindre proposition, impossible par exemple d'accepter le maintien de l'Irlande du Nord, province britannique, dans le marché unique pour éviter la création d'une frontière sur une île qui vit sans depuis 20 ans. Un quart d'heure d'ailleurs a suffi à Theresa May pour présenter sa position hier soir. Antonio Tajani, président du Parlement européen.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de Madame May et sur le fond, je n'ai rien vu de nouveau. Mais j'ai senti dans son discours une volonté politique d'aller de l'avant. C'était le ton de quelqu'un qui veut arriver à un accord.
Alors le dossier du Brexit est bouclé à 90%, mais le plus dur, c'est toujours pour la fin. Pour sortir de l'impasse, les Européens proposent donc de prolonger d'un an la période de transition jusqu'en décembre 2021, se donner un peu plus de temps en somme pour prendre une décision. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz veut voir le verre à moitié plein.
Dans les prochaines semaines ou les prochains mois, la question du Brexit sera réglée.
C'est assez définitif, mais l'heure tourne. Le divorce, c'est dans 6 mois. Et dans la grande dramaturgie européenne, certains États brandissent désormais la menace du chaos qu'entraînerait un Brexit sans accord.
Un Brexit sans accord, Isabelle, qui ne satisferait personne. Theresa May, vous le disiez, est sous pression au Royaume-Uni, car sa coalition ne tient qu'à un fil au Parlement à Londres, avec des conservateurs et des unionistes irlandais partisans d'un Brexit dur, refusant de se plier, disent-ils, aux diktats de Bruxelles. Bruxelles qui tient aussi à prouver que quitter l'Union européenne n'est pas une chose facile à 7 mois des élections européennes.
Oui, et c'est notamment la ligne fermement défendue par Emmanuel Macron au sommet de Salzbourg le mois dernier. Le président français n'avait pas hésité à qualifier de menteurs les partisans du livre qui avaient promis monts et merveilles au moment du référendum. Les choses ne sont pas si simples, avait-il dit. On ne peut pas se passer aussi facilement de l'Europe. C'est vrai que Bruxelles défend à tout craint le marché unique. C'est une cohérence économique, mais aussi politique. Et sur ce point, les Européens ont toujours refusé de faire des compromis. Ils entendent bien tenir leur ligne, malgré les réticences des Polonais ou des Hongrois, pour ne pas que le Brexit fasse le lit des eurosceptiques ailleurs en Europe.
Isabelle Labéry en direct de Bruxelles ce matin pour France Culture avec Marcos Daras à vos côtés pour les moyens techniques au sommet européen. Aujourd'hui, les 28 doivent notamment parler aujourd'hui donc de la gestion de la crise migratoire. Là encore, pas de consensus. Nouvelle preuve s'il en fallait. 44 migrants secourus en mer par un navire marchand lundi soir vont être conduits à Malte aujourd'hui après 2 jours d'incertitude. Le ministre italien de l'Intérieur a refusé de les accueillir, s'appuyant sur un accord signé par le précédent gouvernement à Rome pour ramener en Libye des migrants interceptés en mer. Hier, le pape François a comparé ceux qui renvoient les migrants en Libye aux nazis et aux fascistes. Je ne couvre pas du tout les Saoudiens, c'est ce qu'a déclaré hier Donald Trump à des journalistes à la Maison Blanche à propos de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, critique de Riyad, qui n'a pas donné signe de vie depuis qu'il est entré il y a 2 semaines à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Istanbul. Donald Trump en affaire avec Riyad pour des contrats d'armement, bien embarrassé par cette disparition, alors que la presse turque et américaine livre de nouveaux détails glaçants sur la disparition de Jamal Khashoggi. De quoi gêner là encore un peu plus Riyad, Franck Madvon.
La presse turque favorable au pouvoir livre un récit glaçant des derniers instants de Jamal Khashoggi. Quand le journaliste entre au consulat saoudien, il est attendu par une quinzaine d'hommes, dont des proches du prince Mohammed Ben Salman. Khashoggi est alors battu, torturé, démembré. Son calvaire dure plusieurs minutes. Un des assassins conseille à un autre d'écouter de la musique aux écouteurs, comme lui. « Faites ça dehors, dit le consul, vous allez m'attirer des ennuis. » Le commando quitte les lieux 2 heures plus tard. Ces détails sordides seraient révélés par un enregistrement sonore, impossible de vérifier ces informations, mais on sait d'où elles viennent, des autorités turques qui les laissent filtrer pour accentuer la pression sur le régime saoudien et le prince MBS. Le message de la Turquie à Riyad est clair, nous savons tout, vous êtes vulnérables. La Turquie pourrait ainsi utiliser l'affaire pour obtenir par exemple des prêts saoudiens à des conditions avantageuses ou simplement pour peser dans le jeu diplomatique. L'Arabie Saoudite et son allié américain, qui semble de leur côté préparer la thèse de la bavure, ne peuvent ignorer Ankara dans ce dossier.
Et le Washington Post a publié ce qui pourrait bien être la dernière contribution du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, exilé aux États-Unis. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. Le temps de ce jeudi 18 octobre, pluvieux et localement orageux dans le sud, de la grisaille également dans le nord, mais davantage d'éclaircies au fil de la journée. Les températures sont comprises ce matin entre 7 et 12 degrés en général, jusqu'à 16 près de la Méditerranée. Cet après-midi, il fera entre 18 et 24 degrés.